Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée.
Qu'est-ce que vous sert à boire ?
Bienvenue dans l'Assommoir.
Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça ?
Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé.
Mettez-moi un whisky avec de l'eau.
J'ai déjà la tête qui tourne, comment vous faites, vous autres ?
Hé, vous tous, êtes concerts de la flotte dans le bar ?
L'eau,
c'est pour l'eau, l'eau. 7, 10, 4, 5, 10, 5, 4, 7, 1, 2, 3,
bienvenue dans ce 13e épisode du podcast de l'Assommoir. Et en public, faites du bruit.
Allez,
y a du monde, hein.
Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et autour du comptoir, pour vous accompagner dans cette nouvelle année, il y a pour vous ce soir, comme le saint qui porte son prénom, celui-là boit tout ce qu'il voit, Thomas.
Et salut tout le monde.
Pas de blackout?
Non, je vois la vie en rose cette année.
Oh. Si l'humour était comparable à un bon cru, préparez-vous à être rincé, Lucie.
Salut.
Quelle serait ta boisson pour l'année 2020?
Un petit peu de zeste de Lolo, de Manon, de Thomas et de GS. Bonne année.
Qu'est-ce que c'est un zeste de Lolo?
Tu veux vraiment savoir?
C'est pour un petit peu plus tard.
Pour vous remettre de la soirée d'hier, n'oubliez pas de boire de l'eau aujourd'hui. Ça coule de source comme sa première ici, Manon. Qu'est-ce que tu souhaites à nos auditeurs pour 2020?
Déjà d'arrêter de confondre clitoris et tournevis, mais surtout, j'aimerais trop leur souhaiter qu'ils participent à ton podcast, Jess.
Je pense que c'est
tout ce qu'on peut leur souhaiter.
C'est ouais. Beau.
Et enfin, elle est pétillante comme du champagne, elle a la bulle tonique, une robe d'enfer, et pour sa première, ça s'arrose, Laura.
Hello. Du coup, en entendant ça, je me suis dit, je vais essayer de faire le bruit des bulles, et après je me suis dit, non, c'est vraiment pourri. Comment on fait le bruit des bulles?
Alors ça, c'est le bruit du prout.
Qui est une forme de bulle.
Qui est une forme de bulle, en effet.
Là, tu peux faire coucou aux auditeurs et ce sera le zeste de Lolo.
Bien joué.
Alors commençons sans plus attendre l'Happy Hour. Autour du comptoir, qu'est-ce qui vous a marqué exceptionnellement non plus cette semaine, mais cette année?
Oh là là.
On a vraiment envie de retenir 2019 pour de vrai. Non mais il y a eu que des trucs à la con. Les européennes, merci. Culture, laisse tomber. L'écologie, n'en parlons pas. Non, j'ai retenu un truc, mais qui est un peu passé à la trappe. L'Académie française, en février début de cette année, a approuvé un rapport énonçant qu'il n'existe aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions en français. Wouhou ! Vive le 21e siècle, ça y est, on y est enfin, les gars, on a le droit.
Tu peux nous rappeler qui fait partie de l'Académie française quand même? Parce que c'est généralement des gens un peu...
avec un
dit blanc...
Vous savez qui était la première femme à arriver à l'Académie française?
Je l'ai su, écoute.
C'est Marguerite Yourcenar et j'ai aucune blague. Non, puis à 17e, 18e siècle, tous les noms étaient féminisés, ça posait de problème à personne. Quoi.
Exactement. Bah, putain, un point culture.
C'est les grosses têtes ou pas?
Les grosses chevilles.
Non, mais merci Manon de nous avoir fait partager ça parce que j'avais pas eu cette info. Donc voilà. Ouais. Lolo, pouvons-nous avoir un zeste de Lolo?
Vous pouvez, mais c'est dur de passer après Manon à chaque fois. C'est assez triste finalement quand on voit le contexte social dans lequel on est venu. Après, il y a plein de choses qui se dégagent. L'engagement autour des violences faites aux femmes. Ce qui m'a marqué, qui concentre un petit peu tout ça, c'est le film Les Misérables de Ladj Ly. Je ne sais pas si vous l'avez
vu,
mais pour le coup, je pense que c'est le film de 2019 dans le sens où il met en scène une violence sociétale incroyable. Et pas manichéen pour dessous. Ton joint, Lolo, c'est ce deux films de l'année.
Bon.
Alors qu'est-ce que tu proposes pour les banlieues comme solution du coup?
Écoute, là tout de suite je n'en ai pas. Je pense que malheureusement ça prendrait du temps à résoudre, mais qu'il faut se pencher sur la question, monsieur Macron.
Bon voilà, l'appel
t'as
est lancé.
T'as compris ou pas? Parce que là je peux te dire, mec, t'es dans la merde. Il y a Lolo qui
fait-il
se vénère là.
Des 50 000 auditeurs de l'Assommoir, on ne sait pas.
On fera comme le réalisateur du film, on lui enverra le podcast.
Ah, yes, Macron.
Macron, de mission.
Bah, on lui enverra pas.
Ah merde, j'ai tout gâché. Ah, je suis désolée.
Thomas, qu'est-ce qui t'a marqué en 2019?
C'est d'avoir organisé la Coupe du Monde de Plume Foot.
Ah ouais.
Oh.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous irez voir sur la page Wikipédia que j'ai écrite. C'est un sport qui vient d'Asie, qui se joue avec un petit volant au-dessus d'un filet de badminton, mais avec les pieds. Donc l'idée, c'est de se lever le volant pour réussir à smatcher avec le pied du côté de l'adversaire.
Smatcher avec le pied?
Ouais, exactement. Ouais, tu lèves le pied jusqu'à à peu près plus d'un mètre 60, puisque c'est la hauteur du filet.
Ouais, c'est ça, c'est chaud.
Ça donne un truc assez acrobatique.
Dommage, Lucie.
C'est dégueulasse. Putain, je suis à 1m56, c'est mort.
4 cm, tu peux pas comme ça en une soirée.
Bah, en sautant.
On est 200 en France et on a réussi à organiser un événement qui a réuni 500 personnes dans le public, 200 sportifs du monde entier. Et ça se passait au nord de Paris. On a fait une semaine entière d'épreuves sportives avec son lot de petites anecdotes que j'aurai plaisir à raconter dans les épisodes suivants de l'Assommoir, évidemment.
On dédicacera épisode spécial Plume Foot.
Ah ouais, on pourra jouer en même temps.
Ah ouais, ça sera très... et donc, prochaine question.
Attends, à quoi tu joues là?
C'est pas les mêmes podcasts là, les gars.
Ah, le Plume Foot. Donc, tu lèves la jambe haut, montre-nous.
Je suis extrêmement souple.
Oh la vache.
Comme vous pouvez le voir en ce moment à l'antenne.
C'est incroyable, monsieur d'ailleurs.
Alors, il a le pied sur le plafond, c'est incroyable. Et une belle extension de la jambe jusqu'au plafond qui fait 3 mètres là.
Spider-Man, Spider-Man.
Était-ce vraiment sa jambe?
Le doute m'habite.
Après, il y a une petite trace au plafond maintenant. Donc petite.
Tu remarqueras que j'ai aussi des moulures au plafond, un autre fait marquant de l'année 2019.
Lucie, ton année 2019, qu'est-ce qui t'a marqué?
Je vais être ni sport, culture, politique, sociale, je vais être dans l'intime.
Ah, vas-y.
Mon neveu est né, Lélio. Wow. Il est très mignon.
Yes.
Bah pour moi, c'est une actu quand même. Voilà.
Et c'est important de voir que dans tout ce contexte, il y a malgré tout
des
bonheurs personnels.
Il y a des naissances, des petits-enfants garçons qu'on va éduquer c'est au féminisme. Je peux dire, mon petit pote, si t'entends ce podcast, pas tout de suite parce que tu comprends pas.
Bon, par contre, dans 20 ans, il a plus le planète. Hein. Je suis désolée pour...
Ah merde. Ah putain, il va vivre jusqu'à... Ah,
c'est
non.
L'ambiance.
Bon, vous voulez un autre verre, du coup?
Ouais, bah, allez.
J'ai essayé de me faire un peu
c'est
positif.
C'est à boire, à boire, à boire.
Donne la vodka direct, là, parce que franchement, le cidre, c'est mort.
Bon, et toi, mon JS, ton actu 2020, 2019, pardon.
Alors voilà, moi non plus, je voulais pas aborder la politique, il y aurait trop à dire. Mais je voulais vous parler de quelque chose qui m'a profondément... foutu la honte. Il y a une époque, cette année en 2019, où je me suis un peu mis au sport. Et donc j'allais dans une salle de sport qui était en face de l'Assommoir. Et comme vous le savez très bien, je n'ai pas de machine à laver chez moi. Je lavais mes vêtements dans les toilettes du bar. Un jour, entre midi et deux, je lave mes vêtements dans les chiottes du bar.
Mais attends, dans les chiottes?
Oui, oui, dans les toilettes. Ah, non.
Non, mais parce que là, ton histoire manque de précision et nous, on te regarde un peu, on se dit quand même.
Bah écoute, au boulot, on n'arrête pas de lui dire qu'il y a une petite odeur de merde dans les locaux.
Ça sois précis, sois précis.
Dans les lavabos des toilettes. Ah. Hein, voilà. Et un jour, je n'ai plus de mire. Du mirum, quoi.
Essaye la lessive homo, hein.
Eh ben, je te demanderai le jour où j'essaierai. Donc, je n'ai plus de mire-main et le Franprix est à des kilomètres de notre bar.
Quand tu veux faire du sport et faire de la marche, non.
Et si tu veux, je vois le savon qui est à portée de main, littéralement, et je me dis, oh.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
C'est ça l'erreur.
Il allait le chercher jusqu'à Marseille, hein.
En effet, c'était l'erreur parce que du coup, je me suis mis à laver mes affaires de sport avec le savon à main. Et le lendemain, je courais sur le tapis avec la transpiration et la chaleur. Ça commençait à faire des bulles.
C'est pas vrai.
Et je cours et avec le vent et tout, parce que tu sais, t'as une petite aération sur le tapis de course. Avec le vent, etc., je voyais des bulles qui partaient direct, tu vois, comme ça. Et j'étais
c'est
là, genre.
C'est poétique.
Oh. Est-ce que pour les auditeurs, on peut rappeler le bruit des bulles, s'il vous plaît, pendant que Jean-Sébastien court sur son tapis avec
le vent?
Ah,
c'est pas mal, c'est pas mal.
Alors attends, tu rajoutes ma respiration haletante, ça fait comme ça, ça fait.
Non, Lucie, non, c'est moi ça. Et du coup, est-ce que t'es sorti de ta séance de sport un peu lessivée?
Ah, joli. Eh bien écoutez, ce podcast de cette première année 2020 est sponsorisé par Homo, la lessive.
C'est quoi le slogan déjà d'Homo? Homo?
Homo, t'aimes ça ou pas?
Homo, t'aimes ça? Je sais plus.
Ça lave en profondeur, non? Eh bien écoutez, c'est la fin de la PIO. Wow. Oh. On va passer à la tournée générale.
À la vôtre.
Pour commencer cette nouvelle année, je vous propose de devenir moins con.
Alors ça, moi, je veux bien. C'est juste que j'en connais deux trop autour de la table, ça va être compliqué, hein.
Sois pas condescendante.
Dans la tournée générale, je vous ferai deviner des lieux communs qui sont en fait complètement faux. Et je me suis servi de l'excellent livre « C'est vrai ou c'est faux ?» 300 000 fracassés, il porte très bien son nom, pour pouvoir vous apprendre plein de nouvelles choses. Êtes-vous prêts?
Ah oui.
Alors on va commencer très à propos. Si je vous demande, quel vin donne le plus mal à la tête entre le blanc et le rouge?
Le rouge dégueu donne mal à la tête, le blanc dégueu donne mal au bide.
Ah.
Trois jours aux toilettes, hein.
Ah quand même.
C'est terrible.
Bah t'as pas parlé de ça pour le meilleur de 2019, dis donc.
Je le garde pour le premier jour de 2020.
Eh bien, tous les vins ont la même teneur en soufre. Donc, aucun ne donne plus mal à la tête que l'autre.
Il y en a aucun
mais ils
qui
font
fait
tous souffrir. Ah, ah, mais non, on avait la même avec Thomas.
On n'a même pas le temps de le dire. Vous allez trop vite. Enlève le vin de la table, d'ailleurs.
Je vous donne vraiment 20 sur 20, les gars. Oh. Allez, on enchaîne avec une question enfantine. Comment s'appelle le mâle de la vache?
Le bœuf.
Ah bah non.
Le taureau. Ah, je me suis fait avoir. Bah ouais. Le bœuf, c'est la viande qu'on mange.
Exactement.
Non, mais c'est vrai. Oui. En fait, le bœuf, ça devient bœuf quand on le mange. C'est horrible.
Ah non, alors c'est pas ça. C'est quand il est castré.
Ah ouais, pardon. Ouais. Okay.
Parce qu'avant de le bouffer, du coup, tu lui coupes les couilles parce que c'est vachement plus sympa.
C'est encore pire.
Mais oui, c'est ça.
En fait, si tu veux, Lucie, le bœuf, c'est un taureau qui fait
Il est hyper mignon, ton bœuf.
Mais il est castré.
Ah, c'était le... ah oui, c'était le bœuf qui n'a pas mué.
Concerto pour bœuf.
Bah, on se fait un bœuf.
Allez.
C'est vrai, ça vient d'où cette histoire, on se fait un bœuf? Il mangeait du bœuf en faisant de la musique?
Bœuf sur le toit, non? Ça vous dit rien?
Darius Milhaud.
Oh là là, mais j'ai France Culture à ma gauche. Qu'on leur resserve un verre.
France Culture est actuellement sur Google en train de chercher une bouvière.
Le bœuf.
Eh bien oui, oui, le bœuf sur le toit est à l'origine de l'expression faire un bœuf. Bravo, tu as gagné cette édition de l'Assommoir. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous pour le prochain épisode. Alors continuons avec les animaux. Saurez-vous me dire de quoi se nourrissent les moustiques?
Bah de sang d'humain.
Bah ouais. Ah bah non, ah, du paludisme.
Autre question.
Y a pas des trucs genre de la transpiration parce que c'est pour ça. Ah. Y a plein de trucs genre
les peaux mortes.
Ah les peaux mortes.
Ou du sang d'animaux?
Pas du tout. On pense que les moustiques se nourrissent de sang, mais le sang humain leur sert à quoi?
À féconder. Évidemment.
Ah là là. Alors
c'est encore plus dégueulasse.
Voilà, ouais, c'est ça. En fait, ils nous piquent. Pour pouvoir niquer.
Mais donc du coup on n'a pas la réponse, on sait toujours pas.
Ah bah ici ils se nourrissent de nectar de fleurs, de larves et d'eau.
Ah donc ils trempent sa trompe dans les larves et après dans super.
Et à quel moment le sang qui nous pompe, ça lui sert lui à se faire pomper?
Moi je croyais pas qu'il fallait pomper pour féconder. Je comprends.
Réussir, hein. Manon, t'as écoute.
Suis un peu Manon, putain c'est pas bien compliqué pourtant là le level.
Et ouais c'est incroyable non?
Bah c'est incroyable.
Bon.
Enfin. Ça nous laisse sans voix. Quoi.
Mais Lucie, tu peux peut-être nous faire l'imitation de moustique qui pique, par contre. Je sais
que avec la voix de Maïté.
Elle a réussi.
Je me ferais bien cette petite larve.
Oh putain, les dos du sel, je vais la bouffer.
Je préfère le nectar en petite coupelle.
Ah ben, le nectar de Lolo, moi je te dis c'est mon préféré.
Un zeste.
Il y a le rhum de lait et le zeste de Lolo.
Alors,
savez-vous qui sera la deuxième femme à rentrer à l'Académie française?
Pour la prochaine question, je vais vous faire voyager au XVIIe siècle. Quelle était selon vous la boisson préférée des enfants dans toute l'Europe?
Le whisky.
Ah non.
Oh la vache.
Les passionnés, tu vois, tu sens l'enfance de Laura et Manon.
Le jus de pomme.
Non.
La bière.
Oh oui.
Ça n'a pas changé. Dans certaines régions de France, ça n'a pas changé.
Écoute, moi je suis très mal né, hein. J'aurais aimé vivre au XVIIe siècle.
Ou en Bretagne au XXe.
Une bière avec un petit zeste de Lolo.
Ça n'a rien de meilleur.
Eh bien écoutez, pourquoi selon vous? Pourquoi la bière était la boisson préférée des enfants au XVIIe siècle en France?
Ah mais la bière est une des premières boissons produites dans l'histoire de l'humanité.
Oui, apparemment même la femme préhistorique Lucie buvait de la bière. Tu nous confirmes? Elle est là pour vous ce soir.
C'est dur à faire.
Ça marche pas vraiment parce qu'à l'époque les femmes faisaient moins d'1m60. Wait a second.
Casse ta gueule, moi. Elle a appris un mot de vocabulaire. Elle apprend vite, attention.
Alors, fais-nous la femme préhistorique avec l'accent du sud.
Ah, s'il te plaît.
Oh, et ah, c'est la japonaise. Femme préhistorique, c'est... Oh, et là,
Moi j'ai un peu envie d'entendre Maïté préhistorique aussi maintenant.
Mais qu'est-ce qu'on va nous cuisiner?
Rôde de l'air.
Et Lucie fait ton podcast solo sérieux.
Oh ma Lulu. Pourquoi c'était la boisson favorite des enfants?
Ah oui.
Pourquoi?
Mais est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient autre chose à boire?
Tu veux dire qu'entre le coca, le Fanta et tout, ils choisissaient la bière quoi.
Oui, oui, en effet, c'était la seule. Mais pourquoi les parents, du coup, donnaient de la bière aux enfants?
C'était anti-microbes.
Absolument. Ah, absolument.
Ouais. Voilà. Hey, regardez ma santé.
Alors en effet, parce que à l'époque on redoutait la contamination par l'eau et la fermentation permettait de prévenir la transmission des épidémies. Donc on abreuvait les enfants à la bière pour les éviter d'être empoisonnés ou d'attraper des maladies graves.
Mais surtout à Lolo, moi je voudrais revenir sur un truc. Tu dis que la bière c'était le number one, mais il y avait pas le vin avant.
Non non, les premières civilisations faisaient déjà une première version de la bière qui n'est sans doute pas la même.
En Égypte. En Égypte, tout à fait.
Il y a des Anglais qui ont reproduit la bière égyptienne et ça n'a pas du tout le même goût.
et c'est dégueulasse.
Sur la pisse.
Bah après tu fais néfer pipi.
Bien ouais.
Alors attention les amis, je vous mets en garde. Si en 2020, l'idée vous prend de manger un bol rempli de pépins de pommes, vous en mourrez. Mais ah pourquoi?
Bah parce qu'un bol entier déjà...
C'est énorme.
Tu veux au moment on s'étouffe quoi. Ça ressort par les trous de nez quoi tu...
Niveau de digestion c'est pas terrible, ça c'est clair ouais.
Non, alors grosso modo la question c'est plutôt pourquoi est-ce que manger des pépins de pommes ça peut être nocif?
Tu risques d'avoir un pépin quoi.
Je sais pas, ça te fout des boyaux en vrac, ça te.
Il y a des pesticides.
Une toxine dedans.
Il y a un poison
dedans.
Bah attends,
tu veux quand même pas qu'on te donne le nom de la toxine. Ah bah alors, cours de SVT pour tous.
Merde, j'ai loupé ce cours là.
Donne la première lettre.
La première lettre, c'est un C.
C.
Dans la camomille.
Chers auditeurs, vous avez tous trouvé, on est désolé.
On a le public qui va hijacker le micro de Manon. Et on accueille Chloé.
Salut, salut. Alors moi je pense que c'est le cyanure.
Bon.
Alors...
Oh
putain, elle est trop belle. Oh la vache.
Voilà. Alors en fait sachez
le cyanure,
que
bah oui.
Si vous mangez un pépin de pomme par mégarde, vous saurez maintenant qu'il y a du cyanure dedans. Un ou deux, ça va, tu vois.
C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes.
Eh bien, un bol entier suffit à provoquer un arrêt cardiaque parce que le cyanure empêche l'oxygène de circuler dans le sang.
Oh la vache.
Bon, faut quand même avoir envie de bouffer.
Ouais, ouais, voilà,
c'est
ça.
De pépins, quoi. C'est le genre de truc que tu craches généralement.
Et est-ce
quand
que vous savez
bah,
que
ouais, il faut le savoir.
33 expressos par jour, vous mourrez de crise cardiaque parce qu'il y a trop de caféine. C'est un exercice de terminal qui m'a beaucoup marqué.
Mais à 32, ça va.
Ils vous ont fait boire 33. Le ouais, premier qui crève.
C'est un exercice terminal.
TP. Le premier qui crève, il a zéro.
Bon, comme dirait Pépin. Bref.
Franchement, on aime l'histoire. C'est un podcast qui aime l'histoire.
Attends, parce qu'il va la refaire deux ou trois fois. Il la Charles Martel.
Oh, moi j'en cherche.
Tu le moi je peux pas, ça va trop
vite. J'en ris 3, mais ça marche pas du tout.
Bah, moi j'en ris en tout cas beaucoup.
Oh, j'en ris. Oh, ouais, peut-être, mais tu oui, vois, je l'avais pas. Là. J'en ris 4.
Moi j'en ris parce que je Salvador.
Et le Salvador Dali quoi? Il dit quoi?
Ah, bah Dali que. Moi j'ai une histoire avec Salvador Dali. Hein. J'ai des comptes à régler avec Amanda Lear. Vous voulez que je vous raconte ou pas?
Bah, oui, j'ai fait la voix d'Amanda Lear.
Ça c'est Maïté qui a bouffé à Mandalire.
J'essayais de faire une voix un peu.
J'avais de travers, elle était pas très bonne. Il y avait rien à manger, hein, que la peau sur les os. Hein.
Je sais pas que Maïté. Alors écoutez quand même, c'est une histoire incroyable. Mes tantes, d'accord, dans les années 70, se retrouvent en Espagne en vacances. Et là, elles sympathisent avec des jeunes gens sur la plage et se retrouvent dans la baraque de Salvador Dali.
Oh putain. Oh.
Et là, Dali voit une de mes tantes qui s'appelle Claude et il dit: mais que toi la tête de nos pommes et je vais te dosiner. Non, c'est portugais. Ah écoute, bon bref.
Tu as la tête d'une pomme, il lui dit.
Ouais, je vais te dessiner, je vais faire de toi un tableau, quoi. Et donc là, apparemment, Amanda Lear a fait une crise de jalousie parce que c'était une de ses égéries, de ses muses, voilà. Et donc ma tante n'y est pas allée. Ah bah attends, on rigole pas du tout dans ma famille parce qu'en fait, il aurait dû y avoir un tableau de ma tante, tu vois, à Pompidou ou je ne sais où.
La pomme.
Alors nous, alors parce que ma tante, du coup, sous la pression, elle n'y est pas allée. Et après, elle est décédée. Après, elle est décédée malheureusement quelques années plus tard. Et donc nous, dans ma famille, on se dit mais on va faire une lettre à Amanda Lear. On va dire tu nous dois. Tu vois, à cause d'elle, on n'a pas eu le tableau.
Mais
on
c'est
est dégoûté.
Ouf. Non, mais non. Par contre, tu peux lui donner un bol de pépins
de la part de la pomme.
De celle qui aurait dû être la pomme.
De la descendante de Lucie qui est haute. Allez. Comme trois pommes. Allez, les filles. Dans les années 50, les Américains utilisaient le Coca-Cola à des fins très surprenantes. Pourquoi s'en servaient-ils selon vous?
Comme médicament?
Un médicament, ouais.
Alors, médicament, oui et non.
On pensait être malin, mais...
C'est pas quelque chose de vital.
Je sais pas, l'ancêtre du Patator, quelque chose comme ça.
Le Patator est déjà un ancêtre, Lolo, donc...
Bah, oui, mais c'est pour ça.
C'est quoi,
attends,
le patator?
Pardon, mais ouais, je sais pas non plus. Qu'est-ce que c'est que le patator?
Alors,
c'est un godemiché. Bah, je cherche.
Écoute,
qu'est-ce que c'est que ça, le patator?
C'est un super nom de godemiché en vrai. Le
patator.
Putain, tu prends cher.
Et il crache sa purée à la fin, c'est terrible.
Le patator, c'était un truc que tu utilises quand t'es ado et que t'as rien à foutre à la campagne. C'est un truc, tu sais, qui te permet d'éjecter un projectile.
Ah, d'accord.
En vrai, t'as pas tort.
J'ai pas tort.
Alors, pourquoi les Américains utilisaient le Coca-Cola?
Ils le buvaient?
Non.
Ah, ils le mettaient sur la peau?
Ils le mettaient quelque part.
Non. Alors, le Coca ou la bouteille?
T'as pas le droit de tendre la perche comme ça.
Non, mais à des fins sexuelles?
Alors, oui.
Ah ouais?
Pour l'érection?
Pour stimuler quelque
non.
chose?
Bah, ils sont badigeonnés les parties.
Ah, c'était un lubrifiant?
Non. Oh, mais ça servait en effet quelque chose comme ça.
Ouais.
Essayez de vous mettre à la place.
Non.
D'un Américain.
Alors, pourquoi un Américain?
Ouais.
Et pas une Américaine.
Ah.
Alors, attends.
I have a theory on this, man.
Je sais pas, il servait de la bouteille comme préservatif. N'importe quoi.
Surtout qu'elle était en verre à cette époque, alors t'imagines? Oui. Non, non. C'est pas les hommes qui utilisaient ça.
Alors, attends. Donc, du coup, une femme américaine, qu'est-ce qu'elle fait avec du Coca-Cola?
Est-ce que la bouteille est vide ou ouverte?
Alors, elle la vide.
Elle la
ah,
vide.
Elle la vide, donc il n'y a pas le Coca dedans.
Et elle se le met sur une partie du corps.
Dans une partie du corps.
Dans le cul.
La chatte.
Dans la chatte.
Mais pour se faire un lavement, parce que
non.
Elle a une mycose, tout ça nettoie tout, je ne sais pas.
Bah non.
Pour attirer les moustiques.
Les moustiques ne se nourrissent pas de Coca-Cola.
T'as rien écouté.
Pourquoi se fout du Coca-Cola dans le vagin?
Voilà.
Ah, avortement.
Absolument.
Oh la vache.
Oh là là.
Bravo,
ah
Lolo.
Bah attends, j'ai bu du tout
envie d'en boire.
Mais c'est là que tu vois la condition de la femme. Bon, c'est vraiment désolant.
Ouais,
non, c'est vrai.
Chaud.
Et en fait, parce que les Américains pensaient alors que le fort taux d'acidité qui était contenu dans le coca était spermicide. Donc les femmes prenaient une douche vaginale au Coca-Cola pour pouvoir l'utiliser comme moyen de contraception.
Moi, je comprends pourquoi il y a autant d'Américains sur tout. Ça ne fait pas bien marcher.
Ah ouais.
Sans déconner.
Ah, merde.
Excellent.
250 millions.
Bah oui. Ah, puis du coup, au McDo, tu comprends mieux pourquoi maintenant ils t'offrent le Mexico. Bah.
J'ai déconné, les gars. Donnez-moi le XL.
Ah, ma femme, elle en a déjà 5.
Le 6, c'est trop. Par contre, la grande frite, je prends.
Venez comme vous êtes. Alors, bah, toujours restons très à propos et parlons cuisine maintenant.
Cuisine.
Alors, selon la légende, quel aliment est-il déconseillé de manger lorsqu'il reste fermé après la cuisson?
L'huître.
Non.
Les moules. Les moules.
Oui. Bravo, Lulu.
Moi, j'ai été séché là. Quand même.
La sèche, ça marche pas.
Ah, tu es la perle de cette émission.
En fait, c'est une idée reçue parce que certaines moules sont plus musclées que d'autres. Leur coquille, fermée sous l'action du muscle adducteur, n'a pas pu s'ouvrir même pendant la cuisson. Et là, je vous cite le livre dans le texte. Ces moules ne demandent qu'à être ouvertes, puis mangées. À moins, exceptionnellement, qu'il ne s'agisse de moules vaseuses ou sableuses.
Et pas baveuses. C'est les pires, celles-là.
La baveuse, elle est terrible.
Restons dans la cuisine. Qui, selon vous, a ramené la pomme de terre en France?
Parmentier.
Eh ben non, c'est faux.
Allez. Bah, le colon. Le premier colon qui est rentré avec la patate.
Christophe Colomb.
Bah oui, la pomme de terre est... Ah non, je crois
la patate. Qu'est-ce que la robe de la patate?
Il y en avait en Europe, mais on savait pas qu'on pouvait la cuisiner.
Absolument, Lucie.
Mais sérieusement?
Absolument, Lucie.
Ouais, tu sais ça? T'as appris ça où, à l'école?
J'ai étudié le culinaire. J'ai étudié le cul et le vinaigre qui va avec. Non, mais on pensait que c'était une racine qui se mangeait pas en Europe. Et
absolument.
En fait, avec l'Amérique,
ouais.
On s'est rendu compte, grâce aux Indiens, j'imagine qu'on pouvait cuisiner. Pas du tout.
Alors, c'est pas...
Là, j'invente.
C'est pas avec l'Amérique, c'est avec les Allemands, en fait.
Ah.
Donc, je vais vous raconter l'histoire.
Ah, vas-y,
Olivier de Serres en plantait déjà en 1600, mais ça servait de nourriture pour les animaux, car on pensait que la pomme de terre était toxique, car elle appartenait à la famille des mandragores. Et là, je regarde Thomas, qui est un fan d'Harry Potter. Il y a des mandragores dans Harry Potter.
Tout à fait, tout à fait.
Fin de l'intervention. Alors, c'est quel tome, Thomas?
Attends, parce que dans le public, il y a une autre fan d'Harry Potter, je crois. Ah.
C'est qui la fan d'Harry Potter?
Alors, attends, le Potterpedia.
À Potterpedia, c'est Chloé, encore une fois. Oui. Et on accueille Chloé.
Allez. Qu'est-ce que la mandragore?
C'est une petite plante qui fait des bruits bizarres.
Est-ce que tu peux nous les faire?
Bala 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 bala.
En effet, c'est bizarre.
Alors, tout le monde est mort, mais de rire. Hein.
En vérité, je sais plus exactement ce que je suis désolée.
Non,
je...
ce qui me dégoûte, c'est que j'ai en tête les images du film et pas les images du livre que j'avais quand j'avais 12 ans, tu vois. Et c'est la mort de la culture.
Ouais, c'est exactement ça.
Mais ils s'en servent pas pour faire la potion, tu sais, pour changer
si,
de...
Si, la potion pour faire revenir les gens qui sont pétrifiés à la vie.
Ah.
Boum.
Ah ouais, c'est ça.
Suite
d'accord.
à leur rencontre avec le basilic.
Avec le basilic ? Ah bah putain, tu fais une recette d'enfer, quoi. Une pomme de terre et du basilic.
Une patate au basilic, un peu de crème fraîche et puis une bonne de patate au four, hein.
Un coup de patateur et c'est bon les gars, on lance.
En tout cas, tous les gens qui étaient pétrifiés avant qu'Olivier de Serres arrive, ils devaient se sentir bien cons après. Ah,
c'est vrai. Et donc justement, donc, comme tu l'as si bien dit Lucie, c'est Antoine Parmentier qui l'a ramené d'Allemagne en 1781.
Ah ouais. Je croyais que ça venait des États-Unis.
Non, pas du tout.
T'as vu comment ils sont forts les Américains ?
Ouais, mais ils ont encore fait croire que c'était eux qui avaient inventé la patate.
Ils devaient être là, ah oh, oui.
Ah ouais, la patate, c'est nous.
C'est nous la patate.
Abernicht ? Est-ce que c'est un kartoffel ?
Ah, c'est nous, tout c'est nous.
C'est la prochaine campagne de Donald Trump.
I'm a potato, and I don't want all the potatoes not to vote for me.
Continue Donald Trump, s'il te plaît.
C'est génial, ouais, c'est clair.
Oh, women and potato, c'est les mêmes.
Donald Trump reviendra dans cet épisode.
Ah ouais.
Oh, génial.
He will be back.
Et alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte comment la patate s'est popularisée en France ?
Ah bah oui.
Est-ce que tu peux le dire plus vite ?
Ouais. La patate s'est popularisée dans la population de la France. Blablabla.
La paupérisation de la patate.
À cause du gouvernement Macron.
Salope.
Macron, t'es à chier, Parmentier.
Attends, en manif, ça ferait des dégâts, les gars.
Ah bah c'est sûr.
Merci. En fait, Antoine Parmentier, fort d'avoir découvert que la patate n'était pas nocive pour la santé, a commencé à l'offrir au roi Louis XVI.
Ça a mal fini.
Non, puis maintenant j'imagine Maïté dans les cuisines de Louis XVI. Je suis en train de faire
oh putain,
patates.
Qu'est-ce que j'ai fait là ?
Il y a des patates ici, il y a des patates là-bas, j'en perds la tête.
Star. Je vous propose ma chanson préférée du Nouvel An maintenant.
La vache.
Allez, c'est parti. Alors, vous avez aimé cette chanson ?
Ouais.
Oui, magique.
Where is my mind ?
Ben, c'est pas trop.
Dans ton cul !
C'est bon, je demandais.
T'as mis du coca dessus ?
Allez, pour la prochaine question. Vous serez d'accord que les femmes et les hommes ont des empreintes digitales différentes selon chaque individu ?
Sexiste. Oui.
Eh bien, il existe un animal unique au monde qui a les mêmes empreintes digitales que nous et qui diffère aussi selon chaque individu. Mais quel est cet animal ?
Le ouistiti.
Le chimpanzé.
Non, Laurent pas du Houtan. Tout. Justement,
le
en
dauphin.
Fait...
Alors...
La poule.
Le dauphin, je crois qu'il est proche de l'humain. Hein.
C'est vrai que c'est le meilleur ami de l'homme, mais non. En fait, les singes et les lémuriens ont en effet des empreintes digitales, mais elles ressemblent pas du tout à celles de l'homme parce qu'elles sont plus profondes et plus crêtées.
Et tu vois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des moulures au plafond, mais les murs, rien.
Oh. Ah. Putain, il est bon quand même. Ah. Mais non, reste majeur.
Des années de grosses têtes. Hein. On l'a débauché les grosses têtes.
Non, je fais un déni de grosses têtes.
Ouais, mais du coup, il va y avoir un bébé grosse tête qui va pas tarder.
Sauf si je prends du coca.
Quelle horreur.
Le nouveau contraceptif.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte.
Non mais attends, dans les pays qui régressent là, aux États-Unis et tout, où ils disent mais non, l'avortement c'est interdit, bah le coca.
No regression, no regression in the United States. No, ça!
Oh putain, le revoilà, lui, je vais lui faire sa fête!
Alors, selon vous, quel est le seul animal qui partage les mêmes empreintes digitales que l'être humain?
Bah, le moustique.
Mais non, par contre, il a le même ADN que toi une fois qu'il t'a pompé.
Et donc, si on partage l'ADN de ceux qui nous ont pompé, t'as l'ADN de qui, toi?
Oh, écoute, beaucoup trop de monde pour les citer ce soir!
Bon, on recherche un animal qui a des mains.
Alors, on recherche un animal.
Ouais. Il a des mains.
Il a des mains.
Le diable de Tasmanie.
Non, pas du tout, mais oh, très bonne région.
Ça s'approche.
Le kangourou.
À l'Australie, ça s'approche.
Oui.
Le koala.
Bravo, Lucie.
Bien aidé par Lolo, quand même.
Un travail d'équipe, c'est beau.
Alors, si jamais un koala tue quelqu'un, on pourrait penser que c'est un homme qui a fait le coup.
Ah ouais.
Parce qu'il a les mêmes empreintes digitales qu'un homme.
Mais alors, est-ce déjà arrivé que quelqu'un soit accusé à cause d'un putain de koala qui aurait déjà, du coup, tué un mec? Tu vois, alors, qui aurait étranglé un...
J'ai cherché, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé cette info.
Il y a un scénar de ouf, Lulu.
Ah bon. Bah là, je suis sur le coup, j'ai cru. Monsieur le commissaire, on a un meurtre en Australie. Je crois que vraiment, peut-être, c'était un animal qui a fait le coup, mais je suis pas sûre. Peut-être c'est un humain.
J'ai été piégé par un koala.
Et tu sais, là, t'as le koala face cam qui regarde. Ta ta ta.
C'est moi.
Et le mec demande, mais je comprends pas, il y a quoi là?
Mais attends, dans un ancien podcast, il y a pas une histoire de koala qui s'est fait assassiner là à coup de couteau? C'est comme question pour un champion, quoi. T'as les thèmes, tu fais oh putain, le koala ça va ressortir à tous les coups.
C'est l'épisode 4, allez l'écouter.
Ah ouais, je vous recommande joué, l'épisode 4. Joué. Ce pauvre koala n'a pas eu la vie facile, enfin, surtout une mort difficile pour le coup.
Voilà. Alors, c'est parti. Est-ce que vous avez mangé des crevettes à Noël?
Oui, bien sûr.
Ah oui, j'adore ça.
J'adore la petite queue rose.
Mais non, mais je crois que m'a été rentrée en scène. Du coup, je me suis un peu lâchée. Excusez-moi.
J'adore la petite queue rose. J'aimais bien la susauter.
Je crois que tu pompais, toi. Arrête un peu.
Et moi, je préfère les moules, mais bon. C'est moi.
Les moules sableuses.
Baveuses. Oh, merde, c'est marée basse.
Eh bien, savez-vous où se trouve leur cœur?
Dans leur cul.
Il y a deux visions du monde qui s'affrontent ce soir.
C'est une vision assez binaire. Soit la tête, soit le cul.
Eh bien, un de vous deux a raison.
Alors, le public, vous pouvez voter au 6-12-12.
Eh ben non, c'est la tête.
Ah, voilà. Boring.
Et là, je repense à Tonton Michel qui suçait la tête.
Mais c'est ça. Je repense à Tonton Jean-Claude qui suçait le cul, sentait le cœur dedans.
Ah, touché en plein cœur.
Cuit à cœur.
Alors, soyons écolos maintenant, c'est dans le sens de l'histoire. Quelles sont les plantes qui produisent les deux tiers de l'oxygène sur Terre?
Les arbres?
Non.
Moi, je dirais les algues.
Les deux.
Oui.
Oh, ah, mon Dieu.
Elle les a toutes. Après les moules, les algues.
C'est qui?
C'est Maïté.
Spécialiste du milieu aquatique et maritime.
Attention, elle va mouiller. Et ben en fait, ces algues-là sont appelées les phytoplanctons, qui en fait produisent les deux tiers de l'oxygène sur Terre. C'est incroyable.
C'est incroyable.
Que elles ne soient même pas sur Terre, elles sont sous l'eau. Et elles produisent tout l'oxygène sur la Terre.
Ah, c'est
ouf. Enfin... Parce que moi, je me disais que bon, la Terre, c'était pas avec l'eau. Ouais. Il y avait juste les continents qui faisaient la Terre. Attends, écoute, l'eau, quand même, ça fait partie de la planète Terre.
Et, écoute, je trouve que Lucie, tu ne manques pas d'air.
C'est le koala qui me tue.
Mais non, c'est Lolo déguisé. Mon plan était parfait.
Alors, on nous apprend bêtement à l'école qu'il a inventé quelque chose alors qu'il a simplement amélioré un procédé qui était déjà connu depuis le 11e siècle en Chine. Qui est cette personne et qu'aurait-elle inventé?
C'est un Européen?
C'est un Européen.
Un Allemand encore?
Oui.
La patate?
Hitler?
Oh oh. Pas Godwin, voilà, ouais.
Bah moi je connais que deux Allemands. Alors bon
Alors il aurait inventé quelque chose qui a été à la base d'une révolution. Mais en fait il l'a pas inventé.
Ah,
ah, tu peux le dire en allemand, c'est vrai.
Attends, pour moi.
Alors cet Allemand aurait inventé ça en 1440.
C'est pas l'imprimerie là, Gutenberg.
Oui, bravo Lolo.
Gutenberg.
Gutenberg. Ouais, en français c'est vachement moins sympa. Gutenberg.
Non, ça c'est belge.
On nous apprend en effet à l'école que Gutenberg a inventé l'imprimerie. Faux. L'imprimerie existe depuis le 11e siècle en Chine. Il a en fait modernisé la technique en 1440 alors qu'elle venait d'être ramenée en Europe par les Perses au 13e siècle.
Et du coup, on a des textes de l'époque de Chine.
Absolument. Oui, oui, tout à fait.
Oui. Ouais. Comment on dit ces premières feuilles d'imprimerie là,
c'est incunables.
Les incunables.
Ah pardon, excusez-moi, j'ai mal compris. Les quoi?
Les incunables. Mais ils sont où?
Ils sont les incunables.
Ce podcast vous est offert par Le Bon Goût.
Pour la prochaine question, vous allez être sans dessus dessous et plus jamais vous n'allez voir la vie comme vous l'aviez vue avant.
Voilà, gros programme, hein, ouais, vas-y.
Contre toute croyance, son vrai prénom et nom, c'est en fait Elephant Julius. De qui s'agit-il ?
Dumbledore.
Allez, bip, qu'est-ce qu'il y a ?
Et c'est le retour de Potter Media.
Elephant Julius.
Ben, Jules César.
Ouais.
Ah bah oui.
Bravo, Lola !
Trop fort.
Wow.
En effet, son vrai prénom et nom serait en fait Elephant Julius.
Ah ouais.
Et comment tu sais tout ça ?
Eh bien, je vais vous expliquer. En fait, chez les citoyens romains, il y avait trois prénoms.
Elephant,
Koala
et Hamster.
Il ne pouvait y en avoir que trois. Soit Caius, soit Marcus, soit Lucius.
Soit quoi?
Lucius.
Lucius.
Lucius qui?
Malfoy.
Lucius le cru de la crevette.
Donc le vrai prénom de César était Caius Julius César.
Bah tu nous as dit qu'il s'appelait Elephant.
Oui.
Ah ouais, là on...
Décide de nous.
On la lui fait pas, Lolo.
Je ne vous trompe pas, je vous assure. Ensuite venait le nom qui s'appelle le nomen en romain, équivalent de notre nom de famille qui était porté par la descendance. Donc pour lui, c'était Julius. Et donc, il y avait enfin le cognomen pour distinguer les individus. Et le sien, c'était César, qui signifiait éléphant en carthaginois.
Alors juste, je crois que Lucie me signale qu'on dit pas cognomen, mais cognowoman.
Comment ça, cognomen? Non mais attends, qu'est-ce que j'ai que cette histoire? On est en train de bouillir là, on se dit putain, tu vas voir ce qu'il va nous faire.
Putain, la femme de Gros-Magnon ressort là.
Choco.
Non, this is a cognomen world. Et donc du coup, son prénom n'était absolument pas Jules et son nom de famille n'était absolument pas César. C'était Elephant Julius.
Putain, on nous a menti toutes ces affiches.
C'est dégueulasse. Tu te rends compte, c'est à l'école ce qu'on nous apprend. Voilà.
Et la prochaine fois que vous commanderiez une salade César...
Une salade éléphant, s'il vous plaît.
Et ne vous trompez pas.
La prochaine question va révolutionner votre façon de parler, puisque toute votre vie...
Puisque...
Ça révolutionne la façon de parler. Hein.
Parce que tu préfères ?
Ah non, moi, puisque j'adore.
Alors... Puisque toute votre vie, vous avez mal prononcé un mot parce qu'on le croit anglais. Mais en fait, il est français.
Parkinge.
Non.
Chewing-gum.
Amazinge.
Quoi?
Amazing.
Alors, c'est un nom qui est très utilisé dans notre société macroniste.
Weekend.
Non.
Startup. Ah.
Mais c'est un lien avec l'entreprise ou pas?
C'est un lien
avec le travail.
Le travail.
Un burn-out.
Alors, comment tu dis ça en français?
Un burn-out.
Burn-out.
Bah, les burn-out.
On le prononce en anglais alors qu'il est français.
Ah, le challenge.
Incroyable!
Amazinge!
Ah, j'ai trouvé le challenge!
Voilà.
On devrait dire le challenge.
Exactement, et donc je vais vous raconter l'histoire de challenge. Ça vient du latin calumniare, et dès le Moyen-Âge, on l'utilisait en France dans le mot challonge, qui désignait une accusation publique ou un défi. Et les Anglais, qui ensuite colonisaient la France, comme vous le savez bien,
coloniser, hein. Le mot est faible. Le grand remplacement.
Great replacement.
Simplement.
Les Anglais ont ensuite repris le terme challonge pour faire challenge.
Ah ouais.
Ok.
En fait, le vrai mot, c'est challonge.
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 C'est moins, hein, moins compétitif. Hein.
Ouais.
Alors, les gars, j'ai un super challenge là. Et on va y aller grave tous ensemble, quoi.
Là, okay. Hier soir, avec ma femme, on a réfléchi à un truc.
Ah ouais.
J'ai un challenge.
Prochaine question. Elle dure une minute chez nous, mais en Angleterre, elle dure deux minutes. De quoi s'agit-il?
L'érection.
La minute de silence. La minute de silence.
Bravo, oh, Manon.
Oh,
Manon, elle enchaîne. En fait, la première minute de silence a été inventée pour l'armistice de 1918. Et pour nous, elle durait une minute pour les morts. Et les Anglais ont dit non, on va la faire durer deux minutes.
On va faire mieux que les putains de grenouilles, là.
Toujours plus.
Non, mais c'est là que tu vois qu'ils sont débiles. Enfin, une minute, c'est une minute.
Les Américains, c'est trois.
Et les Chinois, c'est quatre, ok.
Et ils l'ont inventé au 11e siècle.
Et je trouve que c'est une bonne idée, en fait. Parce que les Anglais ont inventé la minute de silence pour les morts, mais l'autre minute pour les vivants.
C'est beau.
Et je trouve ça très beau. Et moi, je militerais, si vous m'élisez président, je militerais pour qu'on fasse deux minutes de silence.
Qu'est-ce que tu penses des retraites, du coup?
Je me retire sur le sujet. Alors, revenons en France.
Ah, qu'est-ce que tu penses des retraites, du coup?
Oh, chaud, on n'a pas parlé de Benalla en 2019.
Ah ouais, ça aurait pu, attends, ça aurait merde.
Ça va venir peut-être pour okay. Le dernier pour la route.
Chaud.
Alors, il nous reste trois questions, les amis. Alors,
est-ce qu'on peut faire une pause pipi?
Vas-y, si tu veux.
J'ai rigolé. Exceptionnellement, nous ne prendrons pas de dernier pour la route pour que la soirée ne se termine jamais. Et voilà 2019 qui se conclut en beauté tout au long de l'année grâce à l'Assommoir. Vous aurez donc appris que les complots existent, Dieu ne sait pas conduire, les touristes n'aiment pas Paris, à l'origine ce n'était pas dans l'œil qu'on se mettait le doigt, Arletty et Fanny Ardant sont des clients de l'Assommoir, la grande place de Bruxelles attend toujours nos méduses, Jeanne Calment est notre chanteuse préférée, Michel est très paranormal, que tous les papes ne fumaient pas que des pipes, derrière chaque Père Noël peut se cacher un cambrioleur, et ce soir que Maïté adore les koalas. Retrouvez-nous sur Facebook et sur l'Instagram du podcast de l'Assommoir tout attaché. Et bien sûr, nous avons hâte de vous ouvrir les portes du seul bar qui paye sa tournée. Car pour nous, la vie, c'est l'Assommoir. Merci pour votre fidélité en 2019 et je vous dis à en février pour fêter la Saint-Valentin.